Dialogue entre Congolais et Prison avec Jean-Claude Ntumba Kamanga, la présentation.
Bonsoir. Suspension pour 48 heures des activités parlementaires suite à l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Bosetti. La levée du corps de ce député provincial du MLC âgé de 29 ans est intervenue ce mardi. Son inhumation est prévue demain, mercredi. Quelles conséquences la suspension pour 48 heures des activités parlementaires peut-elle avoir sur la session extraordinaire de l'Assemblée et du Sénat? C'est la principale question à débattre dans cette émission Dialogue entre Congolais. Pour en parler, nous avons invité pour vous Martin Mukonkole, député national, membre de l'ODER, Ordre de démocrates républicains, groupe parlementaire de l'opposition, Vicky Katumwa et les députés nationales de l'AMP, et puis le docteur Émile Ilunga, il est ancien premier vice-président du Sénat, il intervient ici comme analyste politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Quelles conséquences la suspension pour 48 heures des activités parlementaires peut-elle avoir sur la session extraordinaire de l'Assemblée et du Sénat? C'est bien le thème central de cette émission, mais d'abord, les nouvelles du procès contre six présumés assassins du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous le savez, ce procès ouvert hier s'est poursuivi ce mardi. Notre confrère Jeff Ngoy revient de cette deuxième audience du procès. Nous nous sommes entretenus juste avant cette émission.
Jeff Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Quoi de neuf sur le procès contre les présumés assassins du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa?
C'est que le procès qui a été ouvert, l'audience publique qui a été ouverte aujourd'hui en chambre foraine au camp Kokolo a été renvoyée au jeudi prochain suite à l'absence de certains documents.
C'est quoi ces documents?
Ces documents, c'est-à-dire que les avocats des prévenus ont posé le problème sur l'authenticité de l'arme utilisée par les présumés assassins. On n'arrivait pas à identifier il s'agit de quel type d'arme. Et il demandait aussi l'existence du certificat du décès. Alors, le tribunal militaire de garnison de Ngaliema a renvoyé le procès au jeudi prochain, demandant au ministère public de faire tout pour amener tous les éléments justificatifs, les éléments qui justifient qu'il y ait réellement assassinat, puisqu'on a parlé de l'arme 08236 AK, que le présumé assassin Inoki aurait utilisé pour tirer sur le vice-président de la Première provinciale, mais on n'a pas montré cette arme. Alors, on a demandé au ministère public de faire tout pour amener à la prochaine audience cette arme, d'apporter aussi le certificat du décès du défunt, et aussi un expert en balistique, selon le tribunal des grandes instances. Il a été aussi demandé à certains témoins de revenir encore à la charge le jeudi prochain, tel que le directeur du CPRK, et puis le cousin au présumé assassin Inoki, puisque c'était lui le cerveau moteur de la bande aux présumés assassins.
C'est d'après le ministère public.
Oui, oui. Il a été aussi demandé au ministère public de faire appel à la République, puisqu'on doit citer la République dans cette affaire. Un délai a été donné au greffier pour faire appel à la République à la prochaine audience. Oui. Ainsi que celle-ci a été levée pour répondre à la semaine prochaine.
Merci, Jeff Ngoy. Et donc, la prochaine audience est prévue quand?
Jeudi à 10h.
Merci beaucoup, Jeff Ngoy. Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous d'abord, Martin Mukonkole. Vous êtes de l'ODER, la plateforme dirigée par Roger Lombala. Vous vous êtes rallié au MLC, notamment pour dénoncer cet acte. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du procès?
Nous avions estimé, et nous l'avions aussi dit, on a souhaité qu'il faut que le procès soit un procès sincère, pour que ça ne soit pas un maquillage. Vous avez vous-même constaté qu'avec tout ce qu'on nous a présenté, ça nous donne l'impression qu'il y a un maquillage dedans. Et cela, c'est une façon de se moquer de notre peuple. Nous avions dit que ce procès doit nous faciliter la tâche afin que nous arrivions à identifier les véritables promoteurs ou les véritables acteurs de ces assassinats qui sont en train de s'effectuer sur l'étendue nationale de notre pays.
À quel niveau il y a maquillage, selon vous?
Parce que, figurez-vous, il est 3h, donc il est au petit matin le dimanche, on venait d'assassiner le vice-président Daniel Bossetti. Et on nous dit déjà lundi qu'on a déjà retrouvé au moins trois de ces assassins.
Donc pour vous, c'est allé trop vite.
En tout cas, nous connaissons comment certaines choses se passent dans notre pays et nous profitons de cette occasion pour protester contre ces méthodes-là de pouvoir. Le temps que les investigations sont en train encore d'être menées, on va récupérer certains condamnés à mort qui se retrouvaient peut-être en prison pour qu'on vienne nous les présenter, que ce sont eux qui sont les auteurs. Mais nous aimerions que les enquêtes continuent à se faire et c'est là où on a même exigé que ça puisse se faire par une commission vraiment indépendante qui ne pourra pas seulement être influencée dans les points de vue.
Merci beaucoup parce que ce n'est pas le thème central. On a préféré ouvrir parce que quand même l'actualité s'impose. Madame Vicky Katoumoi, un mot aussi sur ce que vient de dire Martin Mkokoué par rapport à cette deuxième audience. Il parle de maquillage, hein, vous l'avez suivi.
Oui, ben moi je ne veux pas parler de maquillage.
Vous êtes juriste en plus, hein, je pense que...
Non, je ne suis qu'une enseignante.
Excusez-moi.
Je ne veux pas parler de maquillage, mais je vais juste condamner les débuts des manœuvres dilatoires. Là, vous voyez la remise de ce procès à jeudi. C'est déjà les manœuvres dilatoires qui commencent. Et nous qui n'aboutirons pas à cibler les vrais coupables, les vrais auteurs de cet acte-là macabre qui a mis fin à la vie d'un vice-président de l'Assemblée et provinciale. Et donc, je ne veux pas spéculer là-dessus, qu'on a sorti un prisonnier de la prison pour le présenter, mais je veux tout simplement dire que ça commence. C'est comme ça que notre justice fonctionne.
Vous parlez des manœuvres dilatoires.
Dilatoires, comme d'habitude. Nous aimerions que la vérité soit démise pour que les auteurs de ces actes soient dénoncés, qu'ils soient présentés au public, qu'ils soient punis conformément aux actes qu'ils ont posés.
Nous revenons vers vous, docteur Émile Ilunga. Je rappelle que vous êtes ancien premier vice-président du Sénat et là, vous intervenez comme analyste politique. Martin Mkokoué parle de maquillage. Vicky Katoumoi parle de manœuvres dilatoires. Elle souhaite que la justice soit rendue et que les vrais coupables soient présentés devant le public. Martin Mkokoué l'a dit aussi, docteur Émile.
Moi, je vous dirais d'abord que le caractère express de l'action de la police est étonnante pour qu'elle soit vraie. C'est la crédibilité même de ceux qui mènent l'enquête qui est en jeu. Lorsqu'on parle de maquillage, lorsqu'on doute de la véracité ou de l'authenticité des hommes arrêtés, vous pensez bien que pour le citoyen congolais, honnête, il s'étonne d'abord. Je pense que ce qui a manqué, c'est d'abord la communication gouvernementale. Nous n'avons pas entendu le ministre de l'Intérieur d'abord regretter et participer à l'émotion nationale provoqué par l'assassinat d'un jeune vice-président de l'Assemblée provinciale. Donc, il y a matière à regret. Non pas parce que nous doutons de tout ce que fait le gouvernement ou la police, mais c'est la manière d'agir qui est étonnante.
Voilà, merci docteur Émile Ilunga. On vous reconnaît évidemment dans votre façon de parler, c'est sûr, les auditeurs vous retrouvent. Hein. Voilà, nous arrêtons là pour ce premier thème de cette émission. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour le thème central.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Suspension pour 48 heures des activités parlementaires suite à l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Botepi. Quelles conséquences cette suspension peut-elle avoir sur la session extraordinaire de l'Assemblée et du Sénat? D'après beaucoup de députés abordés par notre confrère Jeff Ngoy, la session extraordinaire n'a rien d'extraordinaire. Le bureau de l'Assemblée nationale est accusé notamment par le député national Lisanga Bonganga d'éviter les questions comme la motion de défiance contre le ministre des Hydrocarbures, Lambert Mende, ou encore l'affaire SNEL et l'entreprise internationale MAG Energy. Toujours selon ce député, c'est comme si la session extraordinaire du Parlement ne visait qu'à finaliser les trois premières lois sur la décentralisation. Face à ces accusations, je vous propose de suivre le rapporteur de l'Assemblée nationale, Katende Wandaya, répond à Jeff Ngoy.
Si nous avons convoqué la session extraordinaire, c'est puisque nous estimons qu'il y a des matières qui doivent absolument être votées avant la rentrée parlementaire de septembre. Il y a encore une série de lois qui restent, et au moins nous parlons depuis une dizaine de jours, les travaux en commission paritaire se font des journées et des nuits entières. Je pense que d'ici samedi, nous en terminons avec le bloc des lois de la décentralisation, qui sont nombreux de trois. Et pour le bloc des lois des portefeuilles, on avait relevé au départ 282 divergences. La paritaire a travaillé sans désemparer. Au moment où nous parlons, il reste encore un dixième de divergences qui doivent absolument être aplanies d'ici samedi. Nous projetons convoquer la plénière pour voter ce bloc de loi qui sont nombreux de trois mardi prochain.
Pensez-vous épuiser toutes ces matières d'ici le 15 juillet?
En termes de texte de loi, d'ici le 15 juillet, il va peut-être nous rester un projet de loi qui est en commission.
Au niveau du Sénat, son rapporteur adjoint, lui, estime qu'il n'y a pas de retard dans l'adoption des lois prévues dans la chambre haute du Parlement. On écoute le sénateur Lola Kisanga, rapporteur adjoint du Sénat au téléphone de Kéline Couté.
Notre session extraordinaire se déroule normalement. Depuis que nous avons commencé, nous avons inscrit 8 matières au calendrier de la session extraordinaire. De ces 8 matières, 2 matières ont déjà été évacuées. Nous allons terminer la session peut-être même avant la date, parce que il nous suffit d'évacuer les 3 lois sur la décentralisation le jeudi, et que probablement vendredi nous évacuons la loi concernant la protection de l'enfant. Nous pouvons arrêter le samedi, on peut clôturer, parce que nous ne sommes pas obligés d'aller jusque le 15. Si cela est fait, le samedi, le Sénat pourra clôturer la session.
Voilà, Martin Mkongolé, quel est votre avis sur le rythme de travail au niveau de l'Assemblée nationale?
En tout cas, pour cette session extraordinaire, le rythme de travail est négatif.
Comment?
Négatif, pourquoi? Parce que vous ne pouvez que comprendre que c'était une session extraordinaire, avec des matières bien précises. À ces jours, nous n'avons jusque-là adopté, et il n'y a eu que 2 séances pour une session extraordinaire de 30 jours. 30 jours calendrier, et ça fait 22 jours ouvrables. Et sur les 22 jours ouvrables, nous avons jusque-là siégé que 2 jours. Allez-y comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans les 2 jours.
Mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme loi adoptée?
Oui, mais il n'y a eu que la loi. Bien sûr, il y a la loi portant protection des personnes vivant avec un VIH. Et ça a été adopté. Bon, il y a eu aussi le Conseil supérieur de la magistrature, mais ça n'a pas... Mais ce qui était la plus importante de cette session extraordinaire, c'était les lois. Les 3 lois sur la décentralisation, et c'était et la loi sur la Cour constitutionnelle, et c'était aussi la loi sur la CENI. Ces 3 matières importantes n'ont pas été traitées. Et je crois, nous devons, sur le plan législatif, reconnaître que cette session extraordinaire a été un échec. Et nous n'avons rien fait.
Est-ce que c'est votre avis, Madame Vicky Katouma? Vous êtes aussi députée nationale de l'AMP.
Tout à fait. Je ne suis pas d'accord avec l'honorable Mkongolé quand il taxe, qu'il donne le bilan, il dit que le bilan est négatif de la session extraordinaire, parce que d'abord, cette session extraordinaire est consacrée à une paritaire. Pourquoi une paritaire? Lorsqu'une loi qui est votée à l'Assemblée nationale est votée en des termes différents au niveau du Sénat, les deux bureaux doivent se rencontrer pour convoquer une session, une session paritaire entre les députés, les membres du bureau d'une commission du Sénat et ceux d'une commission de l'autre commission de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un peu ça. Le président de l'Assemblée nationale, lorsque nous avons repris les travaux, il a donné le calendrier, il a rendu public le calendrier de la session extraordinaire, qui comportait entre autres les trois lois sur la décentralisation, qui sont des lois très importantes. Nous ne pouvons pas aller en vacances parlementaires sans avoir ces lois dans nos lots, parce que nous devions aller expliquer à la population ce que c'est la décentralisation et qu'est-ce que la décentralisation doit normalement donner à cette population. Et donc, ces lois-là sont en train d'être travaillées. Nous avons déjà reçu le rapport d'une loi, le rapport de la loi portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Et il reste le rapport de la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, qui est une loi aussi très importante. Et puis, il y a aussi les principes fondamentaux de la libre administration des provinces.
Là, ce sont les trois lois.
Ce sont les trois lois qui vont être finalisées d'ici là, parce que ce ne sont que des rapports que nous aurons adoptés. Oui, comme l'a dit le rapporteur de l'Assemblée nationale, donc nous allons juste adopter ces trois lois. Un seul jour.
Et la loi sur la CENI, hein, qui est attendue par la Commission.
Oui, mais la loi sur la CENI, je crois qu'il y a encore des préalables. L'honorable Martin Mukongole est membre de la commission qui a travaillé cette loi. Donc, cette loi n'était même pas inscrite sur le calendrier de la session extraordinaire. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas du temps mort à l'Assemblée nationale. Ce qu'a dit le rapporteur de l'Assemblée nationale, c'est ça la vérité. Cette commission, donc les deux commissions PAJ de l'Assemblée nationale et du Sénat sont en train de travailler matin et jour. Et nous espérons que d'ici jeudi, n'eût été la levée du corps du vice-président de l'Assemblée provinciale, on devrait tenir une plénière aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de bilan négatif. Nous allons terminer les matières qui sont inscrites au calendrier de la session extraordinaire.
Docteur Émile Ilunga, là, vous retrouvez votre casquette d'ancien vice-président du Sénat. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile qu'on vous mette à essayer de critiquer maintenant ceux qui vous ont succédé. Comment vous trouvez-vous le rythme de travail des deux chambres du Parlement?
D'une manière générale, je vous dirais d'abord que, en principe, une session extraordinaire est convoquée pour étudier des matières limitées. Tout à l'heure, le rapporteur adjoint du Sénat parlait de 8 matières. Une session extraordinaire ne peut pas traiter 8 matières, en tenant compte de la navette, d'harmonisation des textes, parce que les lois doivent être votées dans les mêmes termes.
Entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Comment le faire? Pourquoi avoir pris une semaine de repos? Les sénateurs et les députés travaillent beaucoup, mais ils ont perdu une semaine. Alors qu'il y avait 8 matières. La navette, je ne sais pas si elle a fonctionné correctement. Donc, je pose le problème de principe. La session extraordinaire concerne des matières limitées et qui doit être évacuée au terme de la session extraordinaire. On ne peut pas traiter les reliquats de la session ordinaire en session extraordinaire.
C'est difficile. Hein?
C'est difficile. Vous voyez, c'est pour cela que j'étais très étonné lorsque j'ai eu à apprendre le nombre des matières à étudier en session extraordinaire, moi qui ai eu à diriger le Sénat, à présider les plénières, c'était quasi impossible. Donc, je vous dirais que la méthode est étonnante.
La méthode est étonnante, mais quand on voit par exemple les lois comme les lois sur la décentralisation, la loi sur l'amnistie, la loi sur la CENI, qui doit remplacer la commission électorale indépendante, est-ce que ce ne sont pas des lois qui doivent être adoptées en urgence?
Alors il fallait déterminer l'ordre du jour, identifier, parce qu'il y a des principes généraux dans la gestion de l'ordre du jour d'une session. Déterminer les matières, déterminer la période pendant laquelle on va traiter ces matières, et déterminer, fixer l'ordre des priorités.
Si c'est l'ordre de priorité. Marcel Mokonkolé, vous qui êtes député national, vous êtes de l'opposition, est-ce que la décentralisation, les élections locales, parce qu'elles sont liées justement à ces lois que la CENI, est-ce que c'est une priorité pour vous, députés nationaux?
C'est une priorité pour nous. C'est pourquoi ça nous fait toujours très mal de constater que les lois les plus importantes ne sont pas, donc les projets de loi ou les propositions de loi importantes ne sont pas programmées en priorité. Il est vrai que ce qui est plus important pour nous, c'est de bien habiller l'architecture de la Troisième République en dotant toutes les institutions des moyens disponibles afin de matérialiser la décentralisation et la démocratie dans notre pays. Nous avions estimé que s'il devait y avoir une session extraordinaire, elle devrait être concentrée sur la décentralisation, sur l'arsenal juridique qui concerne la justice et sur la CENI, parce que c'est une priorité. Nous risquons de consommer déjà 3 ans durant sans que nous puissions respecter les prescrits de la Constitution, qui, à son temps, a prévu que c'est dans les 36 mois, après l'installation des institutions, que de nouvelles provinces doivent être opérationnelles. Et on devrait déjà avoir organisé des élections locales, on devrait déjà vider la question de la CENI. Mais parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème au niveau de la majorité. La CENI avait déjà été traitée au niveau de la commission permanente de l'Assemblée nationale. Mais parce que l'AMP devrait donner son point de vue, malgré ce qui a été déjà fait, cette commission qui a traité, elle est composée des députés de la majorité et de l'opposition, a donné un avis technique. Mais on veut plus politiser la CENI, c'est comme ça qu'il y a ces retards. Voilà pourquoi nous disons qu'à un certain moment, on ne sait pas donner des priorités pour réellement que nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes assignés.
Oui, mais Martin Mokonkolé, lorsqu'on vous suit, finalement, on se demande, vous dites que le bilan est négatif au niveau de l'Assemblée nationale, mais entre-temps, vous êtes de la plateforme moderne, vous suspendez votre participation à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez rattraper le retard, sans ajouter à cela les 2 jours, ici, des 2, parce que vous avez encore suspendu, ça c'est au niveau de toutes les 2 chambres du Parlement.
Non, mais il ne faut pas que nous arrivions à exploiter ce que nous venons de faire pour que les gens ne comprennent pas la logique dans laquelle nous nous sommes tous impliqués. Une session extraordinaire, nous avions donné les bilans qui sont négatifs parce qu'elle est convoquée dans 30 jours, calendrier, mais vous verrez que c'est dans 22 jours ouvrables. Mais on n'arrive pas à exploiter les 22 jours au travail. À ce moment-là, nous disons, par rapport à la matière, vous avez suivi ce que le président Ilunga venait de dire, si vous ne savez pas arrêter les priorités, vous risquez de perdre tout le temps. Et parce que nous avions constaté qu'il y a une perte de temps. Et surtout que c'était des matières qui étaient déjà adoptées par chacune des chambres, et ce n'était qu'une certaine des divergences qui devaient être dégagées et aplanies. Et ça ne pouvait pas prendre le temps que ça
fait. Oui, mais je reviens à ce que oui. Comment rattraper le retard si déjà, oui, vous avez quitté la salle parce que vous avez rejoint le MLC qui a suspendu.
Nous avons suspendu pour une raison fondamentale. L'insécurité n'a pas de couleur, l'insécurité n'a pas d'opposants et la majorité. Parce que c'est devenu trop. Plus d'une fois, nous avions dénoncé qu'il y a une certaine irresponsabilité du gouvernement de ne pas sécuriser la population. Et c'est tout le monde, c'est chaque jour que nous avons les paisibles citoyens qui sont en train de mourir. Ici, sur place à Kinshasa et à l'intérieur. Devant cette irresponsabilité, nous nous sommes dit, nous saisissons cette occasion qu'il y a un acteur politique qui venait d'être assassiné pour que nous puissions revendiquer ces différents assassinats suite à l'insécurité, suite à l'incapacité du gouvernement de pouvoir protéger les peuples congolais pour qu'on dise nous arrêtons notre participation, nous suspendons notre participation au niveau des institutions pour qu'on installe et l'ordre soit rétabli et que des responsabilités soient dégagées. Nous ne pouvons pas continuer à faire des lois et des lois qui ne sont jamais appliquées et exécutées au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs recommandations au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat formulées pour la bonne marche des institutions, mais ceux qui sont au niveau de l'exécutif ne respectent jamais ça. C'est comme ça que nous nous sommes dit mieux vaut arrêter. Nous devons suspendre et jusqu'à ce que nous remettrons la pendule à l'air, on va reprendre les travaux.
Voilà, vous êtes encore en dehors, vous avez suspendu, mais Mme Vicky Katoumoa, est-ce que le travail de l'Assemblée nationale, notamment, et même du Sénat, parce que là, le MLC, c'est tous les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont suspendu, et évidemment l'ODR aussi, est-ce que la suspension de cette plateforme et même du MLC, est-ce que ça ne va pas bloquer finalement le travail du Parlement?
Non, j'avais revenir d'abord à la question.
Allez-y.
Je voudrais dire à l'honorable Mkonko et à l'opinion qui nous suit que la conférence de présidents de l'Assemblée nationale est composée tant de députés de la majorité que de députés de l'opposition. C'est au sein de cette conférence de présidents qu'on adopte le calendrier qui est soumis à la plénière.
Le calendrier de
la session. Donc c'est à ce niveau-là que le chef de groupe parlementaire et des commissions qui sont là-dedans de se battre pour que les matières que eux veulent que ça passe puissent passer et non pas que parler maintenant parce que aujourd'hui l'honorable Mkonko est en train de regretter dans la rue. Nous aimerions que le débat s'efface au niveau de l'hémicycle. Lorsque on nous présente le calendrier, je ne vois pas l'honorable Mkonko s'opposer au calendrier de la session que le bureau de l'Assemblée nationale nous présente.
Voilà, là vous avez précisé. Mais oui, par rapport,
je voudrais préciser.
Ouais, ouais. Par rapport
à la suspension, ils peuvent avoir raison. Je ne veux pas polémiquer, mais je n'aimerais pas qu'il y ait de la récupération politique. Parce que celui qui est mort, il est congolais. Nous le pleurons tous. Donc cette mort qui a frappé la République a frappé tant la majorité que l'opposition. Parce que c'est un Congolais d'abord qui est mort, et puis de surcroît vice-président d'une assemblée provinciale.
Et combien le travail de l'Assemblée va se poursuivre avec
et donc, c'est là où moi je voudrais appeler nos frères de l'opposition à la raison. Nous avons demandé qu'il y ait une enquête honnête et sincère, que le coupable soit puni, que le chef de cette unité-là qui a tué puisse démissionner. Nous, moi je suis de la majorité, je demande qu'il y ait quand même des victimes par rapport à cet acte qui a été posé. Que le chef de ces unités dont les militaires ont causé ce forfait puissent prendre le courage de démissionner. Nous demandons tous cela. Ce n'est pas seulement l'apanage de l'opposition, parce que celui qui est mort partage la même idéologie qu'eux, qui doivent demander de se retirer des travaux parlementaires. Ce n'est pas pour ça que le peuple congolais nous a élus. Le peuple congolais nous a élus pour que nous fassions des lois qui soient potables, pour que nous travaillions au bien-être de cette population. Il a parlé de l'insécurité. Ce n'est pas seulement ça. Moi, j'ai été élu à Kalemie, pas plus que hier. Il y a un capitaine de bateau qui a été agressé dans le quartier Fritzard qui est mort.
Donc on dit que l'insécurité...
Oui, elle est généralisée et là nous demandons au pouvoir public de nous sécuriser. Donc la sécurité, ce n'est pas seulement pour l'opposition, c'est la sécurité de tous les Congolais. Nous demandons que le pouvoir public nous sécurise. Et là, nous demandons aussi, moi je formule une demande à mes collègues de l'opposition de revenir à la raison. Et nous sommes regardants sur le procès. Je vous ai parlé des manœuvres dilatoires qui commencent déjà, les reports de procès. Ce sont là les manœuvres dilatoires. Après, nous n'aurons même pas la suite de cette enquête, mais nous allons exiger que la vérité soit connue, que le peuple congolais connaisse la vérité.
Alors, docteur Émile Ilunga, puisque vous intervenez comme ancien premier vice-président du Sénat et surtout analyste politique dans cette émission, à partir de votre expérience, lorsque une plateforme comme ça, ODR, et surtout le MLC, qui a quand même beaucoup de parlementaires, hein, c'est la deuxième force au niveau de la représentation au niveau du Parlement, lorsqu'elle claque la porte, ça se passe comment? Est-ce que la suite des travaux du Parlement ne subit pas un coup?
Je pense qu'il faut d'abord apprécier le préjudice qui est porté au retard mis à terminer cette session. La dimension émotionnelle ne peut être transcendée. Je pense que les camarades qui, à juste titre, sont émus, auraient pu ne pas suspendre, continuer à travailler. Ce n'est pas la suspension qui va modifier ou qui doit ressusciter notre projet. Donc, du point de vue politique, c'est une action qui, de mon point de vue, n'a pas de conséquences évidentes, une dividende politique évidente. Seulement, ça brouille le travail parlementaire. Ça brouille l'image du Parlement auprès du peuple congolais. Nous devons garder l'émotion, nous sommes conscients de ce qui s'est passé, mais nous devons transcender et, une fois de plus, prioriser les choses que nous faisons. Aujourd'hui, je vous dirais que, d'une manière générale, hormis le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget, dont la primeur revient à l'Assemblée nationale. Tous les autres projets de loi peuvent être déposés sur le bureau de l'une ou l'autre chambre, ce qui facilite le travail, et le retard est ainsi comblé. Donc c'est toute la méthode de travail qu'il faut critiquer. Les conséquences suscitent l'incident des parcours. On n'a pas voulu, nous n'avons pas voulu, aucun Congolais n'a voulu ce qui nous est arrivé, ce malheur-là. Mais nous ne pouvons pas ajouter le malheur à d'autres malheurs. Parce que le pays doit être gouverné.
Voilà. Le pays doit être gouverné, Martin Mukongole. Vous retournez quand à l'Assemblée nationale, en plein air ?
Il y a des conditions que nous avons posées, et nous allons évaluer la bonne foi et la bonne volonté de ceux qui sont à la base de l'insécurité. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'honorable Vicky. Il faut réellement qu'il y ait le sens du respect de l'être humain. Ceux qui sont à la base de ça, ils doivent vraiment rendre l'établier. Ça, c'est un aspect. Et nous avions demandé aussi qu'on puisse balayer toutes les zones qui sont à la base de l'insécurité. Enfin, que le gouvernement s'assume. Il y a ceux qui gèrent l'armée, ils doivent s'assumer. Il y a ceux qui gèrent la police, ils doivent s'assumer. Et nous ne devons pas continuer avec des gens qui ne comprennent pas que nous avons besoin de la paix pour tout le monde.
Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du gouvernement et des autorités, notamment de la police et de l'armée, jusque-là?
Non, je ne sais pas si vous avez suivi une déclaration à ce sujet. Et si je ne sais pas si vous avez suivi une déclaration spécifique, c'est ça l'irresponsabilité que nous nous cessons de décrier. Et vous sentez qu'il y a la complicité à ce qui est en train de s'accomplir. Et je voulais aussi, peut-être avant d'arriver à ça, parce que ça c'est étonnant, nous avions arrêté des conditions, et nous estimons qu'il est tout à fait normal que les chefs de l'État comprennent qu'il a tout intérêt. Parce que lui, c'est le garant de la nation, il a tout intérêt de comprendre que ceux qui ne sont pas pour sécuriser la population ne peuvent pas continuer à l'entourer parce qu'ils risquent d'être discrédités par les actes de ses collaborateurs. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait des actions qui justifient réellement l'amour de ce pays et l'amour du paisible citoyen qui est en train de mourir tous les jours. Maman Vicky venait de vous dire que chez lui, il y a eu des morts. Mais si aujourd'hui, moi, je peux vous faire la liste de ceux qui, du Bas-Congo jusqu'au Nord-Sud Kivu, et sans oublier chez moi, la cabine de messages, c'est très dangereux. C'est pourquoi nous disons...
C'est pourquoi on vous accuse, en fait, de suspendre les travaux, que parce qu'il y a un de vos membres de l'opposition qui est mort, et que vous ne le faites pas. Ça, c'est des réactions qu'on a reçues de beaucoup d'auditeurs. Hein.
Non. Nous avions dit, c'est tous les jours que nous sommes en train de décrier et de dénoncer cette insécurité. Mais il faut que notre peuple comprenne qu'à un certain moment, quand bien même, tel que Mme Vicky venait de dire, Mme Vicky, le calendrier d'une session est arrêté au niveau de la conférence des présidents, et nous ne sommes que trois. Si les 12 groupes parlementaires, il y a trois groupes parlementaires de l'opposition, et ils savent qu'ils ont toujours respecté à un mot d'ordre de leur famille politique, même si les idées que nous donnons, elles sont bonnes.
Non, Vicky n'est pas d'accord.
Mais elle est consciente de ce que j'ai dit, parce qu'elle, là, elle a toujours affiché à un certain moment des attitudes responsables. Mais quand il faut se prononcer, et des fois, elle quitte la salle parce qu'elle en a marre. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui pourrait être donné.
Est-ce que c'est vrai, Madame Vicky?
Je ne partage pas ce point de vue. J'ai toujours manifesté mes points de vue devant tout le monde. Et quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Je le dis et il le sait.
Bon, puisqu'il a évoqué le peuple, on va voir un peu au niveau des réactions des auditeurs. Il y a Abdou Makassi qui nous écrit de Béni au Nord-Kivu. Il pense que pour ne pas créer le retard dans les assemblées, le gouvernement doit répondre le plus vite possible aux conditions données par les membres du MLC. D'ailleurs, indique-t-il, leurs conditions posées par l'opposition constituent la seule et vraie solution au problème de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Honorable Vicky Katumwa, est-ce que vous êtes vous partagez cette l'avis de cet auditeur?
Oui, mais je partage cet avis. J'ai besoin aussi d'être sécurisé. Je vous ai dit que celui qui est mort, il est congolais comme moi. Je peux aussi tomber sous le coup de balle.
Donc, vous vous sentez aussi dans les sécurités.
Je me sens dans les sécurités. Je vous ai dit que je suis aussi insécurisé. Nous avons besoin que le pouvoir public nous sécurise. Je suis d'avis avec la condition posée par mes collègues de l'opposition qui ont demandé que la zone soit démilitarisée. Et j'ai suivi ce matin le commandant de la police qui disait que cette zone serait démilitarisée. Mais moi, je dis, il faut toujours résoudre les problèmes en amont et non pas en aval. Lorsqu'il y a eu le problème au Nusumba, c'est à cette période que le gouvernement devrait agir pour sécuriser la population. Il y a beaucoup de hommes en armes en circulation. Même nous qui allons au marché, ils vont même au marché. Alors que le rôle de la police, c'est de sécuriser, et ça revient à la police de sécuriser les personnes et leurs biens, et que les militaires doivent se retrouver dans leurs casernes. Mais nous les voyons se déambuler à travers tous les quartiers, les communes, et on ne comprend plus rien. Donc, je suis d'avis qu'il faut démilitariser, je suis aussi d'avis qu'il faut sécuriser la population, et donc j'ai adhéré à toutes les conditions posées par mes collègues de l'opposition.
Voilà, il y a aussi Kouka qui nous écrit du Bas-Congo. Il pense que la suspension pour 48 heures des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat permettra aux deux chambres de réfléchir sur les solutions aux problèmes d'insécurité devenus un pain quotidien. Émilie Yonga, docteur, qu'est-ce que vous pensez de cet avis?
Je vous dirais que il y a l'insécurité dans la cité. Il ne faut pas que le gouvernement, pour plus exactement, il ne faut pas que par le geste mal compris d'arrêt des travaux parlementaires insécurise l'État. Parce que c'est une forme d'insécurité supplémentaire, en plus de ce que nous vivons. Là, évidemment, les camarades de l'opposition, enfin, je ne sais pas, de l'opposition, je considère que j'étais membre, en fait, toujours, de toute façon.
Non, on n'est pas de l'opposition.
Disons que je suis, comme vous m'avez appelé, analyste.
Hein. Aujourd'hui, ça t'a
appelé. Aujourd'hui,
hein. On verra les couleurs peut-être demain.
C'est ça. Maintenant, au fond, j'observe les choses avec un certain recul.
Okay.
Oui. Et c'est pour cela que je puis me permettre d'apprécier le geste de l'opposition en évitant d'insécuriser l'État. Je l'ai dit. En plus de l'insécurité qui règne dans la cité. De mon point de vue, je pense que, et ils vont le faire très vite, ils vont engager des discussions avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour revenir rapidement et liquider le reste.
Merci beaucoup, docteur Émile Lunga. Nous retrouvons Titi Mpoutou qui vient de faire son entrée dans ce studio. C'est pour nous donner les autres réactions des auditeurs. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. David Bouanga de Manono Katanga se pose la question de savoir ce qu'en fait finalement le gouvernement pour la sécurité nationale au moment où le peuple est en train d'être exterminé. Michel Misambo de Gbadolité à l'Équateur lui pense que suspendre la plénière c'est bien, mais le mieux serait de convoquer le ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse justifier cet assassinat. Simbi François Aouvira au Sud Kivu demande aux parlementaires de se mettre au travail car il y a beaucoup de dossiers à traiter qui traînent. Mais aussi Malouga de Kikwit dans la province de Bandundu se demande pourquoi nos élus ne réagissent-ils pas de la même façon devant l'assassinat des autres citoyens. Et enfin, Jean-Jacques Bikoko Munzembo de Mbandaka à l'Équateur, lui veut savoir si la sécurité n'est pas énuméré, prévu et programmé dans les 5 chantiers du chef de l'État.
Merci beaucoup, Titi Mputu. On retourne vers vous et on va vous demander d'être un peu plus court aussi parce qu'il ne nous reste que 6 minutes pour terminer cette émission. D'abord, cette question de Michel Misambo de Guadeloupe à l'Équateur, lui qui pense que suspendre la plénière, c'est bien, mais il serait mieux de convoquer le ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse justifier cet assassinat. Madame Vicky Katumwa.
Oui, ben, le ministre de l'Intérieur a toujours été invité. L'honorable Mukonkole a parlé des recommandations de l'Assemblée nationale qui sont restées lettres mortes. Et donc, je ne pense pas que nous puissions nous adonner encore à une telle gymnastique. Je pense que le gouvernement a compris. Ça ne sert à rien que nous soyons, que nous crions chaque fois au risque d'être aussi décrédibilisés par notre population. Nous aimerions que le gouvernement comprenne, que le pouvoir public nous sécurise. Le peuple congolais est insécurisé. L'insécurité va du nord à l'est, de l'ouest, du sud à l'ouest. Et donc nous aimerions qu'on puisse sécuriser la population. Le ministre de l'Intérieur, ça ne sert à rien de l'interpeller. Nous l'avons interpellé. Il y a eu, le cas Kaemba, il y a eu le cas Bakongo, il y a eu le cas Nord-Sud Kivu, ici même à Kinshasa. Nous l'avons interpellé, mais nous ne voyons pas de changement, nous ne comprenons pas cet immobilisme du gouvernement.
Vous avez même parlé de Calémie, hein,
oui. De Calémie, on a tué les capitaines du bateau Barak. Oui.
Oui. Simbi François nous écrit de Ouvira, aussi que vous, il demande aux parlementaires que vous êtes de vous mettre au travail, car il y a beaucoup de dossiers à traiter qui traînent Martin Mukonkole. Vous êtes dehors, mais voilà ce que pense la population.
Non, je crois que notre ami François doit comprendre que nous ne pouvons pas accepter que nous nous comportons comme si nous étions une boîte de résonance du gouvernement. Un exécutif têtu, un exécutif inhumain. On ne peut pas continuer avec un exécutif comme celui-là. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Ça sera de la peine perdue de continuer à voter des lois et nous les transmettons à un exécutif qui ne sait pas les mettre en application.
Mais quand vous dites que l'exécutif est inhumain, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais on avait qu'à constater cette insécurité est causée par cet exécutif qui est incapable de sécuriser le peuple congolais. C'est comme ça que nous disons qu'il n'a pas le sens, il n'a pas l'amour du peuple congolais. Et je suis tout à fait d'accord, et j'ai salué le courage de l'honorable Vicky Katumwa, parce que pour cette fois-ci, je crois que c'est un signal très fort que nous venons de lancer au chef de l'État qu'il comprenne que ce n'est pas avec ce gouvernement qu'il doit continuer à tuer le peuple congolais.
Ah, vous dites que vous saluez le courage de l'honorable Vicky Katumwa parce que étant de la majorité, là presque le même discours que vous.
Mais il a compris, donc il a manifesté la véritable volonté de notre peuple, que ce n'est pas avec ce gouvernement. Nous allons aller au travail pour interpeller qui, parce que chaque fois, il y a des ministres qui devaient déjà quitter le gouvernement il y a longtemps. Il y a beaucoup de mandats qui devaient quitter il y a longtemps. Mais pourquoi on continue à nous garder un gouvernement congelé comme celui-ci?
Voilà, on a Malouga qui nous écrit de Kikwit dans le Bandundu. Il se demande pourquoi nos élus ne réagissent-ils pas de la même façon devant l'assassinat d'autres citoyens. Docteur Amélie Longa.
Je vous dirais tout de suite que il est vrai qu'un quidam, un citoyen quelconque, epsilon, lambda, nous n'avons pas les mêmes réactions que celles produites par une personnalité connue. Ça peut se comprendre. Mais le gouvernement ne peut pas s'autoriser d'ignorer les méfaits, les souffrances du peuple congolais, quelle que soit sa dimension. Epsilon, I, lambda, ou iota, c'est du latin, c'est du grec, n'est-ce pas? C'est, de mon point de vue...
Il n'y a pas beaucoup de Congolais.
Enfin, ils ont tort. Nous avons appelé le latin et le grec.
Oui.
Et ils n'ont pas tort. Je retire.
Okay.
Je voudrais vous dire que le gouvernement est l'expression de responsabilité par rapport à la sécurité.
Justement, puisque vous citez, vous parlez de la sécurité, excusez-moi, docteur Emile Longa, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais il y a Jean-Jacques Bikoko Mundembo de Mbandaka, l'Équateur. Lui, déjà, il veut savoir si la sécurité n'est pas énumérée, programmée parmi les 5 chantiers du chef de l'État. Vous en savez quelque chose?
J'en sais quelque chose. Et je crois que ce sera le 6e point des 5 chantiers du président de la République.
La sécurité.
La sécurité.
un commentaire avec vous, Martin Moukonkolé, parce qu'il y a Robert Baumé, on va terminer rapidement en quelques secondes. Lui, il pense que la suspension de 48 heures des activités parlementaires ne va pas servir à quelque chose, à grand chose, dans les enquêtes qui sont menées pour dénicher les vrais assassins.
Non, mais je crois que la suspension n'est pas des 48 heures. Je crois que les bureaux, les deux bureaux de l'Assemblée, hier, quand on faisait notre déclaration, le président de la, du Sénat est passé, il nous a dit qu'ils vont se concerter pour donner le point de vue. On l'a informé que nous suspendons jusqu'à ce que les conditions seront prises en compte par le gouvernement. Je crois que même dans les 48 heures, vous allez comprendre avec nous qu'il n'y aura pas plénière. Jusqu'au jour où ils vont réellement tenir à nos exigences, et c'est ces jours-là, je crois que ça pourrait être déjà après les délais de cette plénière extraordinaire. Ouais. C'est pourquoi nous profitons aussi pour dire, demain c'est l'enterrement, et c'est une journée ville morte, et il n'y a pas un véhicule qui doit circuler, on doit enterrer notre collègue à pied.
Là, vous servez de micro de radiocopie pour appeler les gens à marche, c'est ça?
Non, il n'y a pas marche, mais c'est une ville morte demain, parce que nous sommes...
Non, on ne va pas vous permettre de faire, de lancer ce mot sur radiocopie. Faites-moi juste un mot par rapport à ce qu'il a dit. Vous souhaitez que les députés de l'opposition reviennent?
Et c'est notre souhait, que nos collègues viennent, qu'ils viennent s'exprimer. Merci. Dans l'hémicycle, merci, que nous travaillons, merci, que nous terminions la session extraordinaire que nous avons entamée.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Héritier Sidiakal a été à la mise en onde, réalisation Guy-Roger Nampala.